Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine pour la dernière émission de cette année 2023. Nous avons pu aborder de très nombreux sujets au cours de cette année. Je vous propose, pour clôturer l'année, un sujet qui, vous allez voir, est à la fois très léger et très sérieux et très important, à savoir la question de l'éloquence, de l'art oratoire. Nous allons évoquer l'histoire et le rôle de cet art oratoire, de cette éloquence. Et puis, nous ferons également une analyse de quelques grands chefs politiques d'aujourd'hui pour voir comment il l'utilise, parce que évidemment l'éloquence est très présente dans le domaine politique. Alors pour en parler, mon invité cette semaine, Luc Desroches, bonjour.
Bonjour Jean-Mathias Noé.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflits. Vous êtes le cofondateur et co-directeur d'une association qui s'appelle Parole d'Homme, qui met en avant et en valeur l'art oratoire à travers de nombreuses formations pour des publics d'ailleurs très variés, des étudiants, des professionnels, des prêtres. Également, fait des formations dans les maisons d'arrêt et en prison. Donc, on voit que l'art oratoire peut s'adresser et doit s'adresser à tout le monde. Et puis, vous êtes aussi un homme de théâtre. Vous avez d'ailleurs monté il y a quelques années un spectacle autour de Molière.
Exactement.
Qui, lui aussi, savait manier les mots et tenir les foules en haleine à travers ces différentes pièces. Alors, l'art oratoire, c'est quelque chose qui est très important. On pense évidemment à l'art oratoire à l'époque antique, avec Aristote et Cicéron qui l'ont théorisé. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'art oratoire en quelques mots? Est-ce que c'est uniquement le fait de parler ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus?
L'art oratoire ou la rhétorique ou l'éloquence, c'est l'art de persuader par le discours. Voilà, ça c'est la définition la plus simple et la plus courte qu'on puisse trouver. L'art de persuader par le discours, et donc c'est comme ça que c'est défini depuis l'Antiquité, et surtout c'est comme ça que c'est né, puisque c'est né au cours de l'époque de la Sicile grecque. À ce moment-là, il était nécessaire de trouver les moyens de persuader par le discours, dans la mesure où il y avait de gros conflits juridiques suite à une période très conflictuelle avec des tyrans de la Sicile qui avaient été renversés. Et donc, ce changement politique avait déclenché beaucoup de conflits juridiques. Et il y a eu une grande nécessité à ce moment-là de faire gagner les causes juridiques. Et le premier moyen qu'on a trouvé, que les premiers orateurs ont trouvé, c'est justement la parole publique.
Alors, Aristote est un de ceux qui codifie l'art oratoire, qui explique ce que c'est que la rhétorique et quelles en sont les grandes lignes.
Vous dites qu'il codifie l'art oratoire, moi je dis qu'il purifie l'art oratoire. Parce que, suite à cette naissance, les grands rhéteurs, comme on les appelait, c'est-à-dire les maîtres de rhétorique, ont rapidement fait fortune, et des fortunes tout à fait considérables. Et ils ont fait ces fortunes-là en prouvant qu'il était tout à fait possible de défendre le pour et le contre d'une même cause de manière totalement indifférente, sans attacher aucune importance à la vérité des faits. Aristote vient purifier la rhétorique, d'ailleurs il écrit son ouvrage qui s'appelle La rhétorique, et il codifie, en effet il y a une phase de codification dont on peut retenir trois choses fondamentales qui ressortent dans un discours: le logos, l'éthos, le pathos. Alors, ce sont trois étapes qui nous servent encore aujourd'hui. Le logos, ça veut dire tout bêtement apporter une attention particulière à la logique générale de son discours, apporter une attention particulière au bon sens, s'attacher au fait que mon discours doit avoir un début, un milieu et une fin pour former un tout cohérent. Ensuite, il y a l'éthos, qui est l'image que l'orateur renvoie lui-même, donc sa sincérité d'une certaine manière, et le pathos, c'est-à-dire comment sait-il susciter l'émotion dans son auditoire.
Et le but de cette rhétorique, c'est d'amener vers le bien, vers la vérité. Ce n'est pas simplement de mentir ou de manipuler les foules.
Absolument. Alors Aristote, c'est intéressant, dit « il faut savoir, lorsque je défends une cause, il faut que je sache défendre la cause contraire, mais pas pour considérer que tout se vaut et que chacun son point de vue, etc. Ça, c'est Protagoras, ce sont les sophistes. Non, pour considérer le mieux possible les arguments de l'adversaire, et donc pour le mieux possible réduire l'adversaire à l'impuissance.
C'est ce que d'ailleurs a fait Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, où il prend les arguments des uns et des autres pour étudier l'argument de l'autre et montrer en quoi celui-ci ne fonctionne pas, et donc finalement aboutir à sa propre conclusion.
Ouais, exactement, et c'est ce que font d'ailleurs, c'est tout à fait vrai sur la Somme théologique, c'est tout à fait vrai sur beaucoup d'orateurs chrétiens, hein. C'est le cas notamment de Lacordaire, qui consacre ses conférences de carême au rationalisme beaucoup, et qui fait exactement cette même chose-là, qui dissèque tous les arguments pour mieux les contrer.
Alors Aristote, Cicéron est un autre grand auteur de l'époque antique, alors avocat, brillant, rhéteur, notamment sur le forum romain, d'ailleurs lorsqu'il a été assassiné sur fruit de la réconciliation entre Octave et Marc-Antoine, il s'est retrouvé avec les mains et la tête coupées, déposé sur le lieu où il haranguait la foule pour montrer à quel point sa langue et sa persuasion avaient été fortes. Qu'est-ce que Cicéron apporte ou qu'est-ce qu'il complète dans le travail d'Aristote?
Il complète notamment par l'emploi d'une structure très efficace qui indique que un discours comporte quatre étapes. Pardon. Donc il y a l'exorde, la narration, l'argumentation, la péroraison. C'est-à-dire que ce sont, si vous voulez, toutes ces étapes-là qui permettent de structurer le discours et qui permettent d'avoir un discours qui soit extrêmement percutant et qui, d'une certaine manière, n'oublie rien dans les raisonnements et dans le débat. Et c'est intéressant de voir que ces étapes-là ont été ont traversé vraiment les siècles et existent encore aujourd'hui.
Ce qui est intéressant dans cet art oratoire, c'est que aujourd'hui, il est intéressant dans l'histoire de l'art oratoire, plus exactement, c'est le fait qu'il n'est quasiment plus enseigné, alors même que dans les études supérieures françaises, il y a encore des épreuves orales. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, et souvent des épreuves qui sont un peu redoutées parce qu'on n'est plus face à sa feuille et donc avec son savoir et répondre à l'énoncé ou au problème. Mais en plus, il faut maîtriser le style, la forme, convaincre le jury, qui peut être de une à plusieurs personnes. À l'agrégation au CAPES, par exemple, il y a un jury composé de 4 ou 5 personnes. Donc cette dimension peut créer un stress parce que les gens n'ont pas été formés ou habitués à ce genre de choses.
Bah bien sûr, parce qu'on a une culture occidentale qui se base énormément sur l'aspect intellectuel des choses. Et donc on intellectualise beaucoup, on est capable de formuler, on est capable de... Voilà. Mais on nommait souvent dans les formations le facteur humain. Or le facteur humain est très fort. Quand on parle devant un public, que ce soit un jury ou autre, vous l'avez peut-être vous-même expérimenté, quand on est dans un public et qu'on voit un orateur, bah, y en a qu'on aime tout de suite, il y en a d'autres qu'on déteste tout de suite, mais sans le savoir, parce que c'est cette perception un petit peu humaine, ce facteur humain qu'on ne peut pas maîtriser que par l'intellect et qu'il faut savoir appréhender aussi humainement. Un discours s'appréhende aussi humainement et pas qu'intellectuellement. C'est pour ça que Aristote est très pertinent dans ces trois critères, parce qu'il aborde non seulement la raison, mais aussi l'aspect émotionnel des personnes qui écoutent.
Et ça veut dire également qu'un discours doit être préparé, qu'on ne l'improvise pas.
Je ne veux pas répondre trop vite à cette question. Il y a des gens qui sont capables d'improviser, mais je n'ai jamais entendu de bonne improvisation par des gens qui n'avaient pas en amont énormément travaillé leur discours d'une manière générale. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris l'habitude de prononcer des discours, lorsque mes discours sont bons, sont bien construits, fonctionnent bien, à partir de ce moment-là, je deviens capable non pas de faire des discours improvisés, mais des discours impromptus. C'est-à-dire que moi, c'est un exercice que je fais faire souvent à mes étudiants en fin d'année, quand on a fait tout le cursus d'éloquence et que je les estime capables de faire cet exercice. Je leur dis, voilà, un tel, vous allez devant le groupe et vous allez nous parler de telle chose. Et donc, la personne s'exécute tout de suite. Et là, on va dire, le temps de préparation, c'est seulement de son siège jusqu'à l'estrade. Donc, elle a, allez, 10 secondes de préparation. Cette personne sait que pour parler pendant une minute de manière impromptue comme ça, il faut qu'elle commence par se poser la question de savoir quel est mon message, quel est mon début, quelle est ma fin. Éventuellement, prévoir une petite structure de 1 point, de 2 points ou 3 points maximum. Mais elle a très peu de temps. Et donc, je ne crois pas au discours improvisé, je crois au discours impromptu.
Un professeur de théâtre qui nous faisait faire de l'art d'improvisation, il disait qu'il fallait toujours commencer par la fin, c'est-à-dire prévoir la chute, savoir où on allait arriver et comment on allait terminer l'improvisation. Quelque chose que.
Ben, c'est intéressant parce que c'est souvent le problème que j'ai dans mes cours de théâtre avec mes étudiants, c'est que les improvisations s'emballent, 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 ou alors au contraire piétinent et ça ne se termine jamais. Et souvent, je dois intervenir, moi, dans l'improvisation pour dire trouver une fin. C'est un peu la phrase code pour leur signifier
Il
qu'il
faut
faut trouver.
terminer.
Voilà.
Et ça veut dire également que dans la préparation, il y a le geste, hein, entre la parole et le geste, puisque le discours, c'est aussi un dialogue par les mains, par les bras, enfin, la manière dont les gens sont sur scène ou sur leur estrade ou derrière leur pupitre et dont ils vont délivrer aussi un discours par les gestes.
Oui, il y a toujours. Vous partez du principe suivant. Quand je parle en public, il y a toujours trois critères fondamentaux. Alors, il y a évidemment ce dont j'ai parlé d'Aristote, c'est ethos, logos, pathos. Il y en a trois autres qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus opératoires et par lesquels on peut s'améliorer très rapidement. Ce sont les trois langages que l'on emploie lorsqu'on parle, que ce soit en public ou devant une personne, là, devant vous, comme je suis en train de le faire. Le premier langage, c'est le langage verbal. Le langage verbal, c'est l'ensemble des mots que je prononce, l'ensemble de mes phrases, si vous voulez, le contenu. On pourrait dire que c'est le on pourrait écrire ce que je dis pour voir mon langage verbal. Quelle est ma syntaxe, quel est mon vocabulaire, quelle est la longueur de mes phrases, etc. Il y a ensuite un langage vocal qui est l'ensemble de mes intonations, de mes silences, de mes pauses, de mon rythme. Est-ce que mon débit est trop rapide ou pas assez rapide? L'intensité de ma voix, sa force, etc. Et enfin un langage visuel. Un langage visuel, bah, comme son nom l'indique, c'est la gestuelle, la posture, le regard. Voilà. Et on peut résumer ça très simplement en disant bah, votre langage verbal, c'est ce que le public va comprendre. Votre langage vocal, c'est ce qu'il va entendre. Votre langage visuel, c'est ce qu'il va voir. C'est très important de se dire ce petit résumé parce que ça vous permet de vous mettre à la place du public. Comment est-ce que j'aimerais voir, comprendre et entendre ce que j'ai à dire? Voilà, c'est toujours très important de se mettre à la place du public pour savoir comment faire un bon discours. Si moi, j'ignorais totalement ce que je suis en train de vous dire là, comment est-ce que j'aimerais l'entendre? Je pense que beaucoup d'orateurs gagneraient en qualité en faisant cet effort d'empathie vis-à-vis du public. Car eux-mêmes, souvent dans le public, ils sont les premiers à dire qu'ils s'ennuient pendant les discours. Mais lorsqu'ils doivent en faire, eh bien, on voit qu'ils se tombent un petit peu dans les mêmes pièges.
Ils s'ennuient des autres. Alors, on a choisi quelques dirigeants, enfin, choisi, sélectionné quelques dirigeants pour essayer de voir comment ils utilisent le discours. C'est intéressant puisque c'est un objet très important de l'étude des hommes politiques, des dirigeants, parce que, évidemment, ce sont des personnes qui prennent des décisions, mais qui, par leur forme d'être, soit dans une campagne électorale, soit dans un acte de décision, interviennent et en parlent. Par leurs gestes et par leurs mots. On va commencer par Donald Trump, ancien président américain, qui est d'ailleurs toujours en lice pour tenter de redevenir président américain. On a là un personnage qui est intéressant à étudier parce que on voit qu'il y a un très fort engagement dans ses discours, très forte gestuelle aussi. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais indifférent. Soit les gens l'adorent ou le détestent, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient neutres à son égard.
C'est intéressant parce que vous avez utilisé deux adjectifs très justes. Vous avez utilisé fort engagement, forte implication, etc. C'est tout à fait ça. Donald Trump, on pourrait dire que lui, sa rhétorique, c'est la rhétorique de la force. Pourquoi? Parce que on le voit, si on reprend tous les critères dont je vous ai parlé, logos, ethos, pathos, langage verbal, vocal, visuel, eh bien dans son logos, vous avez toujours des valeurs fortes qu'il exprime de patriotisme, de priorité aux Américains, aux pays, etc. Il l'a dit. Lorsqu'il avait fait son discours devant l'ONU, il a dit, si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays, si vous voulez la démocratie, accrochez-vous à votre souveraineté, si vous voulez la paix, aimez votre nation. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ces valeurs très fortes de l'amour, de la protection, de la force dédiée à la nation. Et puis, bien sûr, c'est une de ses grandes phrases, le futur n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes. Voilà. Ensuite, il a un ethos. Différencier, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne renvoie pas la même image, il ne veut pas renvoyer la même image à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. À l'intérieur, il a un petit peu l'éthos du lion attaqué, voyez, c'est-à-dire le fort qui est attaqué de toutes parts. Alors, il a sorti ça en ce moment, il en parle parce qu'il dit que S'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son premier mandat, c'est à cause de l'état profond, à cause de toute cette administration qui veut épurer, il veut renvoyer 6 000 personnes, etc., pour arriver à mener à bien ses objectifs, parce qu'on l'a empêché de le faire lors de son premier mandat. Ensuite, il y a les affaires, évidemment, où il dit qu'il est attaqué, Joe Biden veut le mettre en prison parce qu'il est son plus grand adversaire politique. Il y a aussi l'éthos de ce lion attaqué avec la politique de l'immigration, hein, où il a dit, je crois, il y a quelques heures, je crois que c'était hier, que les immigrés mexicains empoisonnaient le sang des États-Unis. Ils empoisonnent le sang de notre pays. Donc il y a cet aspect-là à l'intérieur, en même temps qu'il dégage une grande force et une grande sympathie. Et à l'extérieur, c'est, si vous voulez, l'ami constructif. Vous voyez, on l'a vu très fortement, notamment avec Kim Jong-un. Il a multiplié vraiment les. Alors sur Twitter, c'était très étonnant parce qu'il y avait beaucoup de provocations et beaucoup de. Hein, mais en réalité, il a fait avec Kim Jong-un ce qu'il faisait avec la plupart des autres dirigeants, c'est-à-dire afficher une très grande complicité, montrer les grandes avancées qu'on va faire ensemble. Voilà. Il a été par exemple le premier président américain à aller en Corée du Nord, à fouler le sol de la Corée du Nord. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez, cette espèce d'éthos différencié. Voilà. Et puis en revanche, son pathos, comment est-ce qu'il suscite l'émotion? Eh bien, il suscite l'émotion en choquant. Il veut choquer en fait le plus possible, parce que plus il choque, plus il adopte un discours choquant, plus les oppositions et les adhésions sont marquées. C'est-à-dire plus il va cristalliser en face de lui ses opposants, et plus il va s'aligner de plus en plus de partisans. D'ailleurs, il monte hein, toujours dans les sondages, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une très bonne stratégie du point de vue rhétorique, parce que il enferme ses opposants. Lorsqu'il adopte cette posture, il enferme ses opposants dans un sophisme, justement, dont on parlait précédemment, qui est le sophisme, comme disait Strauss, de la réductio ad Hitlerum. C'est-à-dire que en ce moment, la seule défense, la seule attaque que peuvent faire ses adversaires, c'est de dire bah, c'est un dictateur, c'est comme Hitler, c'est comme voilà, c'est un dictateur nord-coréen, c'est une horreur. Mais ils n'ont rien d'autre en réalité à proposer, ils n'ont aucune autre forme d'attaque à proposer. Donc c'est intéressant de voir que, vous voyez, ça, il a une, contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant et contrairement à ce qu'en disent beaucoup de médias, il a en fin de compte une rhétorique assez intelligente et assez travaillée, en tout cas, voilà, et assez efficace.
Et qu'il a réussi à travailler aussi autour de son style et de sa personne, c'est quelque chose qui va lui correspondre. Enfin, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il y a une dissonance entre
tout à
ce
fait.
Qu'il est en tant que personne et ce qu'il rejaillit quand il intervient sur une scène.
Mais il y a une très grande congruence, et ça on le voit, on le voit notamment avec les trois langages dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il a toujours un langage verbal, c'est-à-dire vous rappelez hein, le vocabulaire, les mots, les phrases, toujours extrêmement simple. Et extrêmement simple. Hein, ce que je vous ai cité tout à l'heure, là, l'anaphore, si vous voulez ça, il faut que vous ayez ça. Si vous voulez ça, il faut que vous ayez ça. C'est toujours très très simple. C'est parfois un peu du slogan, mais au moins ça fonctionne. Il a un langage vocal extrêmement ferme, posé, extrêmement fort, encore une fois, hein, vraiment dans le langage de force. Et il a un langage visuel. De puissance, c'est-à-dire très souvent on voit l'image qu'on a de Donald Trump, c'est les bras écartés sur le pupitre, qui maintient le pupitre, qui a les mains fermées sur le pupitre et qui a vraiment, on le voit ancré, on le voit fort en fait. Donc oui, vous avez raison, tout ça sert une espèce de cohérence globale et une grande congruence.
Alors deuxième chef d'État intéressant à analyser, c'est Vladimir Poutine. Là on est dans un style très différent. On le voit d'ailleurs souvent, alors nous on a les images que l'on voit en France, peut-être qu'en Russie ils en ont une autre perception, mais on le voit quasiment tout le temps assis à un bureau. Il y a juste une fois, on l'a vu dans un stade, c'était peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, lors un grand meeting qu'il avait organisé dans un stade avec ses partisans. Mais là on a quelqu'un de beaucoup plus immobile, contrairement à Trump qui bouge beaucoup même sur la scène. Là c'est plutôt le côté un peu glace et immobile qui apparaît.
Bah, c'est sûr, hein, je vous parlais du facteur humain tout à l'heure. Là, on est en plein dedans, c'est intéressant. Vous avez Trump dont on parlait, qui est, je pense, quelqu'un d'assez volubile, d'assez énergique, etc., mais qu'il est naturellement. Poutine, c'est l'ancien agent du KGB, l'esprit posé, froid, calculateur. Et lui, c'est une autre rhétorique. On avait la rhétorique de la force avec Trump, là, on a la rhétorique du contrôle, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il est toujours Vladimir Poutine. Dans une sorte de juste milieu. Voilà. Il est toujours, vous voyez, par exemple, quand il parle de l'Occident, il constate, il déplore avec une certaine objectivité douloureuse le comportement tout à fait navrant de l'Occident Et il arrive en fait à montrer que eh bien, lui est irréprochable, ou en tout cas le peuple russe, la Russie, etc., est irréprochable et en tout cas est indépendant, mais que l'Occident ne comprend pas et ne veut pas comprendre que le peuple russe veut garder son indépendance. Donc on a un logos qui montre qu'il ne cherche pas, qu'il ne veut pas se troubler de ça. C'est-à-dire que quand vous l'entendez parler, en fait, il est toujours d'une très très grande maîtrise. On n'a jamais l'impression que cet homme est déstabilisé, hein, c'est troublant. Et on a un ethos on va dire l'ethos du bon père de famille. C'est-à-dire, bah voilà, moi, je gère les choses de cette manière-là. Je les gère avec calme, fermeté. Tout le monde est libre, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Et c'est un petit peu ce qu'il met en avant avec l'Occident. C'est-à-dire que son dernier discours, là, en octobre, sa longue conférence de presse, c'est exactement ça qu'il met en avant. C'est-à-dire, nos arguments, nos appels à la raison ont été ignorés, voilà, alors que nous portons une grande cohérence sur le long terme. Il a l'avantage, comparé aux autres, d'être là depuis très longtemps et de dire la même chose, ce qui est rarissime quand même dans le milieu politique. De dire la même chose en 2023 qu'en 1997 sur beaucoup de sujets. Donc vous voyez, il a un peu cet éthos du bon père de famille qui a toujours eu les mêmes avis, qui est toujours très stable, très raisonné, etc. En revanche, attention, faut pas trop me prendre pour un imbécile. Et le pathos qui est plus sur l'aspect un peu brimé, vous voyez, l'aspect un peu martyr de l'Occident, où il met en avant le fait que l'Occident a beaucoup reste dans une dynamique de colonie, un état d'esprit tout à fait colonial à l'égard de la Russie, et que la Russie, d'une certaine manière, est un peu brimée par l'Occident qui l'oblige à vivre et penser d'une certaine manière alors qu'elle ne le veut pas.
Alors, troisième chef d'État, c'est Emmanuel Macron, président français. Là aussi, intéressant à étudier d'un point de vue de la rhétorique, parce qu'on est sur un registre qui est très différent des deux précédents.
Certes.
On le voit notamment quelqu'un qui est extrêmement tactile et qui va souvent au contact des personnes lorsqu'il intervient, que ce soit des chefs d'État ou des simples citoyens français, et quelqu'un qui a aussi une grande appétence pour le discours. Il avait d'ailleurs lancé, après la crise des Gilets jaunes, le grand débat. Volonté de débattre pour régler la crise politique. Donc, c'est quelqu'un qui aime ce genre de choses et qui le pratique volontiers.
Oui, alors c'est vrai, il est plus difficile à analyser parce que, si vous voulez, Emmanuel Macron, donc il a un rapport assez changeant à la rhétorique, notamment quand il a été élu en 2017. Ce qui était très troublant, c'est de voir que pour le coup, le logos, le langage verbal, il s'en fichait complètement. Il n'y avait aucune importance à attacher ça. Enfin, écoutez, si vous y arrivez, les rassemblements politiques de 2017. C'est quand même devant un responsable politique qui se fait mais applaudir, qui se fait acclamer en disant des phrases telles que « Pensez printemps ». Alors là, ça déclenche une ovation extraordinaire. Il disait aussi les journalistes se moquent de moi parce que je dis en même temps. Eh bien, chers amis, je continuerai à dire en même temps. Ça, c'est au moins une promesse qu'il a tenue. Et là, pareil, une ovation extraordinaire qui se déclenche. Enfin, si vous voulez, il y avait la polémique des t-shirts aussi. Il dit, moi, je trouve ça formidable de porter des t-shirts. Pareil, il se fait applaudir. Mais si vous voulez, on a l'impression de voir Nelson Mandela. Et donc, c'est étonnant de voir qu'en 2017, c'est quelqu'un qui a plus été élu, à mon avis, hein, sur le non-verbal, en fait, et l'éthos, vous voyez, on va dire de l'apprenti, de l'homme qui arrive comme ça, qui est très intelligent, mais qui ne vient pas du tout des arcanes de la politique, alors qu'il y était depuis quand même bien longtemps. Et ça évolue, c'est-à-dire que une fois qu'il est élu, on change un petit peu. Il y a plus de densité sur le logos, mais le verbal est beaucoup moins compréhensible. C'est-à-dire que les phrases sont extrêmement longues, parfois extrêmement peu cohérentes et compréhensibles, mais il y a un logos qui malgré tout est plus dense. Et en revanche, sur le langage non verbal, bah, il reste toujours très travaillé, très bon, à part une période, notamment par exemple sous le Covid. Et après, où il avait changé de conseiller communication, et il avait toujours les mains, je ne sais pas si vous vous souvenez, en entretien lorsqu'il faisait une déclaration aux Français, il avait les mains bien posées comme ça devant lui, complètement figées, et le regard totalement mort en fait, parce que je pense, ne voulait pas être décrypté sur quoi que ce soit. Et donc il y avait une espèce d'aspect visuel un petit peu glaçant et vocal aussi parce que très mécanique, très robotisé. Voilà. Mais Emmanuel Macron, si vous voulez, je pense que c'est un petit peu la personne. Donc, il a gardé cet aspect en même temps, en même temps, en même temps dans le discours. Et voilà, c'est étonnant à dire pour moi, mais je me demande si ce n'est pas l'un des seuls orateurs qui puisse convenir aux Français. Parce que même si on peut mettre en doute tout ce qu'il dit, même si il est très difficile de croire ce qu'il dit, parce que souvent dans la demi-heure, il dit l'inverse, eh bien, il a une très grande capacité, très très grande capacité à prononcer des discours qui ne choquent pas vraiment. C'est-à-dire que il noie les gens sous un flot de paroles et il arrive à développer un vocabulaire qui fait que bah, la contestation n'existe pas vraiment parce qu'il ne dit pas vraiment d'idées choquantes. Vous voyez, c'est un peu vraiment l'opposé de Trump. C'est-à-dire que lui, il est dans un pays où la population est tellement variée, tellement diverse, où on peut choquer tellement de gens en une phrase, qu'il est contraint, d'une certaine manière, à une rhétorique très fluctuante et sans, je ne le dis pas péjorativement, contrairement aux apparences, mais une rhétorique un petit peu molle.
Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs un des problèmes de la rhétorique qui est de vouloir convenir à tout le monde ou plaire à tout le monde finit par n'avoir plus vraiment de sens et d'être des mots enfilés, mais d'avoir perdu le sens du discours et le sens de la vérité qui est recherchée?
Ben oui, mais un petit peu. Hein. Alors maintenant, tout dépend de tout dépend du rapport que chacun entretient à la vérité. C'est-à-dire que justement, les sophistes et les rhéteurs, il y en a encore. Enfin, cette distinction très forte qui a été faite pendant l'Antiquité vaut encore aujourd'hui. Il y a encore des gens aujourd'hui, et notamment dans les formateurs. Hein, il suffit de faire un petit tour sur LinkedIn pour s'en apercevoir. Il y a beaucoup de formateurs qui sont prêts à former n'importe qui pour n'importe quoi. Mais il se trouve que voilà, il y en a d'autres qui considèrent que la vérité seule a de la valeur dans un discours, et c'est un petit peu le danger, comme vous dites, lorsqu'on veut plaire à tout le monde, c'est que bah non, la vérité, c'est la vérité par définition. Donc il y a très vite un moment donné où on n'est plus dans la vérité, et donc où il faut trancher, et donc ça met des gens pas d'accord forcément. Donc si on veut dire la vérité, on n'a pas le choix, on est obligé. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont dit la vérité, tous les orateurs qui ont dit la vérité dans les siècles passés s'en sont aperçus, souvent à leurs dépens, que cela peut leur jouer des tours fameux et que c'est le prix à payer justement de mettre des gens contre soi si on veut rester le plus possible dans la vérité.
Dernière question, Luc Desroches, est-ce que cet art de la parole, il s'apprend, il y a des techniques, mais comment est-ce qu'on associe la technique que vous avez évoquée et la part de... d'humanité ou de vérité qu'il y a dans la personne, pour que le discours ne soit pas complètement mécanique et trop technique, mais que la personnalité de celui qui parle soit complètement effacée.
Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Je vous le dis à mon petit stade, là, on était en train de parler de trois chefs d'État. Là, moi, je vous le dis en tant que non seulement professeur d'éloquence, mais aussi en tant qu'orateur régulier. Il y a quelque chose qui aide énormément, c'est une préparation personnelle, à voix haute, sans papier. C'est la seule manière de vraiment faire ressortir la personnalité d'une personne, c'est-à-dire que la personne doit admettre que le papier va être un obstacle la plupart du temps, et un exercice vraiment très efficace est de se mettre soit devant un miroir, soit de se filmer, de parler sans papier et de chercher à parler au public de la manière la plus simple possible, un petit peu comme si j'étais à une terrasse de café avec un ami. Alors bien sûr, ça exclut la possibilité d'utiliser un langage familier, évidemment, mais vous voyez, s'entraîner comme ça à dire son message, le dire de plusieurs manières différentes, éventuellement avec une structure différente, mais avoir toujours en tête le fait que je parle à des personnes. Le public est composé de personnes, et ces personnes-là ont besoin qu'on leur parle comme à des personnes. Il ne faut pas accorder trop trop d'importance et trop surestimer la capacité du public à absorber un discours très intellectuel. Nous sommes tous des êtres de raison, mais nous sommes tous également des êtres d'émotion. Nous avons besoin des deux. Et bien, pour que tout cela soit équilibré, un entraînement préalable, un entraînement à voix haute, seul, chez soi, sans papier, est toujours indispensable.
Alors, on le voit, et ça en est parlé avec les étudiants qui souvent préparent extrêmement bien leurs oraux et ils ont plein de feuilles de papier. Et finalement, le conseil qu'on leur donne, c'est souvent de ne pas avoir de papier. Ils en ont peur mais c'est souvent là qu'ils réussissent le mieux, justement, parce qu'ils sont détachés de leurs notes et donc ils arrivent à exprimer beaucoup mieux leurs idées.
Exactement. Alors, il m'est arrivé, vous voyez, enfin, je ne parle jamais avec un papier par principe. Et il m'est arrivé d'avoir des trous de mémoire, parce que nul n'est parfait. Et j'ai fait l'expérience, et je vous souhaite de la faire, mais vous ne pourrez pas la faire si vous avez un papier, qui est de, malgré le trou de mémoire, d'arriver à retrouver le fil de sa pensée sans quitter les yeux de son auditoire. Et c'est, le regard est extrêmement important lorsqu'on parle en public, parce que on dit c'est le reflet de l'âme, hein, et donc c'est par le regard que vous allez arriver à construire la relation, et il est extrêmement important de prendre conscience que le regard non seulement crée la relation, mais en plus peut vous permettre de vous retrouver. Et puis il m'est arrivé une autre fois aussi où j'avais un petit trou de mémoire de dire à mon public en riant, bah, je suis désolé, je ne sais pas où j'en suis. Et alors là, ça fait rire tout le monde, les gens applaudissent pour vous encourager et ça recrée, en fait, ça nourrit assez paradoxalement la relation entre le public et vous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas craindre. Alors, pour les étudiants en oral, ça peut être encore plus difficile parce que justement il y a le stress de la note, donc le trac est encore plus grand. Mais en tout cas en discours, quel que soit, j'insiste là-dessus, quelle que soit la raison pour laquelle vous faites un discours, je vous conseille de ne pas avoir de papier.
Merci beaucoup, Luc Desroches, d'être venu parler de l'éloquence et de l'art oratoire. Et on voit à quel point c'est une tradition très ancienne en Europe et une tradition ô combien importante. Merci pour votre fidélité au cours de cette année 2023. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais nous serons aussi dans une autre année. Il n'est pas trop tard pour offrir des abonnements à Conflit. Je vous rappelle que Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs en kiosque. Sur le site de Conflit, revueconflit.com, vous pourrez retrouver nos anciens numéros en format papier et en format numérique, ainsi que les différentes formules d'abonnement. Et vous pouvez toujours offrir des abonnements. Nous sommes encore dans la période de Noël. Ce sera un excellent cadeau aux personnes que vous aimez. Merci beaucoup et à très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.